Et à la fin, ce moment-là, ils n'ont pas beaucoup d'importance en réalité, parce que ce que je veux savoir, c'est plutôt comment se comporte le type et s'il est malléable ou pas. Et puis une fois qu'il pense qu'il peut rentrer dans le système, alors on soumet l'adhésion du profane, l'initiation du profane à la vie de la loge, et à ce moment-là, on distribue à tous les frères présents deux boules, une boule noire et une boule blanche, et on demande aux frères de mettre dans le sac aux propositions, c'est un petit sac comme ça, ou une boule noire ou une boule blanche. Et s'il met une boule blanche, c'est-à-dire qu'il est partisan de l'initiation, s'il met une boule noire, c'est-à-dire qu'il est opposé à l'initiation. Et puis à côté, il y a un sac dans lequel on met la boule qu'on ne veut pas utiliser. Ensuite, on vide sur le bureau du vénérable le sac aux propositions, puis on compte tout simplement combien il y a de boules blanches, combien de boules noires. Et alors là, selon les ateliers, vous avez des ateliers où on travaille à majorité simple, vous avez des ateliers où on travaille à majorité des deux tiers, et moi j'avais cherché dans un atelier qui était un atelier où on exigeait l'unanimité. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas avoir une seule boule noire, autrement on était rejeté. Je veux dire, à quel point je suis quelqu'un d'exceptionnel. Hein. Mais plus tard, une fois que j'ai été dans la boutique, il y a un type qui s'est présenté qui était un ingénieur informaticien, qui était un Anglais, un type d'ailleurs charmant, et... Alors le gars se présente et sous le bandeau, on lui pose la question, est-ce que tu considères que la fidélité conjugale est une chose importante? Alors le mec répond, évidemment oui, c'est un pendant pour le principe. Et il dit oui, bien sûr. Et alors on lui dit, mais pourtant tu es en train de divorcer. Ben oui, ça n'a rien à voir, oui. Bon, alors il sort, et à ce moment-là, un des types qui était un notaire dit. On ne peut pas recevoir ce frère dans l'atelier, c'est pas, on ne peut pas recevoir ce profane dans l'atelier, c'est pas de bon. Pourquoi? Parce que, d'après nos règlements, le franc-maçon doit être libre de bonne mœurs, et un homme qui divorce, c'est pas un homme de bonne mœurs. Alors, donc, les gens, ils sont drôlement forts, hein, c'est une bonne maison, on n'a rien à dire. Et on fait donc circuler le sac en proposition. Et le sac circule, il revient avec une boule noire. Donc, le gars est refusé au nom de la règle de l'unanimité. Alors, je dis, attendez, moi, j'ai une question à poser. Parce que la question posée, c'était, doit-on rejeter le profane? Doit-on recevoir le profane? Alors, il y avait, je crois, 40 boules blanches, une boule noire, donc la réponse est non. Puisque la boule noire fait basculer... Alors, j'ai dit, je voudrais qu'on refasse la votation, mais la question, c'est, doit-on rejeter le profane? Alors, on peut dire, mais pourquoi? Mais parce que vous avez voyé que votre système, c'est un système complètement idiot. Puisque si on fait circuler le sac en proposition, doit-on rejeter? Il y aura une boule blanche et 40 boules noires, donc la réponse sera non, et à ce moment-là, on sera obligé de l'intégrer, puisqu'on aura refusé de le rejeter. Alors là, les gars, visiblement, ils avaient découvert un truc auquel ils n'avaient jamais pensé. C'était un des mystères, un des grands mystères de la création qui venait de se dévoiler à leurs yeux. Tout ça, pour dire, c'est une page précisée, au fond. Ça n'emporte pas, on ne pose pas beaucoup sur une grande... intelligence des choses. Mais voilà comment fonctionne le système du black boulet. Alors black boulet, black boule, la boule noire.
Vous m'avez raconté une histoire. Voilà, une question là que je vais aborder sur un terrain planétaire. Là, ça relève plus du tout d'une notion d'humain à humain. Cette espèce de désagrégation qu'il y a eu en 1989, c'est-à-dire de la désagrégation en fait du bloc soviétique, où avant 89, un monde était différent. Hein. On a eu un changement d'humanité total, c'est-à-dire qu'il y avait un bloc Est-Ouest, où il y avait deux forces qui étaient en coalition, et c'était en quelque sorte un équilibre, et il y avait l'ordre et la sécurité du monde. Avec des petites barres comme Cuba, etc., puis on jouait à la guerre, etc., il y avait le KGB, il y avait la CIA, etc. Ça a duré des années, des années. Bon. Et puis en 1989, naturellement, là, il y a eu un changement mondial. Alors, première question, est-ce que la franc-maçonnerie a eu une influence là-dessus, comme sans doute l'a-t-elle eu sur les prises de conscience au niveau de la Révolution, bien sûr, donc d'une manière occulte, a-t-elle, en quelque sorte, favorisé d'une manière souterraine occulte tous ces mouvements, en quelque sorte, qui ont eu une influence sur le mur de Berlin,
les mon interprétation de la chose est un peu différente. Alors, la franc-maçonnerie, elle n'opère pas à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est des sociétés de plus haut niveau qui interviennent. La franc-maçonnerie, c'est le terreau dans lequel on va recruter les forces d'appoint pour ces mouvements. Mais ce que je crois en réalité, la prétendue chute du communisme, c'est tout simplement parce que la coalition capitalo-marxiste qui régnait sur le monde depuis... depuis 70 ans. Elle est arrivée à un moment où la partie marxiste de la coalition capitalo-marxiste n'était plus nécessaire pour maintenir le fonctionnement du système, et en revanche, il fallait ouvrir le marché que représentaient les familles marxistes à l'ensemble du système. Donc il fallait en finir avec la structure marxiste. Et c'est ce qui est en train de se passer. On a supprimé la structure totalitaire en apparence des pays de l'Est, tout simplement parce qu'il fallait en finir avec les marchés bloqués et ouvrir le grand marché mondial. Et on ne pouvait pas ouvrir le grand marché mondial tant qu'il y avait deux blocs. Maintenant, il n'y a plus de blocs, il y a une espèce de grand marché universel. Voilà. Mais je crois que les francs-maçons jouent un rôle là-dedans, c'est possible, mais pas au niveau supérieur, parce qu'on sait bien qu'au niveau supérieur, la racine de ça, enfin, l'instrument qui a préparé cette opération et qui l'a mis à bien, c'est la trilatérale. Quand la trilatérale est née, c'était fait pour ça, la trilatérale, c'était ça le sens du mot trilatéral. Donc il s'agissait de transformer les deux blocs en un grand marché. Ça a pris quelques années, et ça a été fait à travers des manipulations, comme toujours, de foule et des manipulations médiatiques. Vous avez une question,
Là, vous avez un petit peu discuté le côté de la franc-maçonnerie. Par contre, je voudrais savoir si vous pensez d'un livre que vous avez déjà entendu me recommander, c'est La Rose de Notre-Dame.
Oui.
Il y a justement tout ce côté ésotérique.
Oui. La géographie, la Rose de Notre-Dame, en gros, pour simplifier, c'est une réflexion sur la géographie sacrée. À mon avis, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie s'est emparée de ça pour justement faire un peu de brouillard en disant mais nous, c'est nos préoccupations, c'est ça qu'on s'occupe, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas un bouquin sérieux qui a été publié par la franc-maçonnerie ou par un franc-maçon sur la géographie sacrée. Les seuls bouquins sérieux, intéressants et utiles qui ont été publiés sur la géographie sacrée ont été publiés par des penseurs catholiques. Les seuls. Et parce que tout simplement, les autres ne peuvent pas dire la vérité. Alors les maçons qui connaissent la vérité sur la géographie sacrée sont des maçons de très très haut grade, ceux notamment qui ont depuis des années entrepris de redessiner complètement la géographie sacrée de Paris, et là, eux ne diront jamais la vérité. Ceux qui disent la vérité, c'est les gens forts, c'est cette Ford, c'est des gens comme ça qui sont des combattants de la vérité, qui sont des gens de notre camp. Mais en face, ils ne peuvent pas la dire. Donc la franc-maçonnerie n'a aucun rôle là-dessus. Moi, je dis, en dehors des travaux que j'ai suivis à Péron de Villefosse et qui étaient des travaux sur la symbolique, à l'année où j'y étais, c'était sur la symbolique des cathédrales, hein, on était très 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 loin de la géographie sacrée fondamentale et on pouvait deviser pendant 3 heures sur le sens du labyrinthe de Chartres et tout ça. Bon, mais je ne crois pas que la franc-maçonnerie joue un rôle quelconque dans le domaine.
C'est un monsieur qui m'a dit que la franc-maçonnerie s'était constituée en 1917 par des juifs intelligents à Londres pour rétablir l'équilibre du monde. C'est-à-dire que le Talmud dit que Dieu a créé le monde en 5 ordres. Le bas, c'est le minéral, après c'est le végétal, après l'animal, après l'homme et après le juif. Il y a autant de différences entre le juif, qu'entre le non-juif et l'animal. Et ça s'inscrit.
Oui, c'est un propos qui est plus couramment par les rabbins on l'entend,
Seulement, ils ont trouvé qu'eux, ils étaient très mal reçus dans le monde, et ils ont voulu rétablir l'ordre dit par le Talmud.
Oui, je connais cette hypothèse. Moi, je vous avoue que je ne crois pas tellement à ça. Parce que je vois mal 5 hommes se réunir en disant, même des plus intelligents, ce qui fait beaucoup quand même, déjà tous sont naturellement intelligents, donc si en plus ils sont intelligents, ça devient plus fort. Je les vois mal se réunir à 5 en disant, on va redresser le monde. Je veux bien croire, 1 mégalomane, 2 mégalomane, ça va, 5 ça fait quand même beaucoup. Hein. Surtout à Londres, dans une seule. Moi, je ne crois pas tellement à ça. Je crois qu'il y a des gens qui ont joué. Vous savez, c'est l'époque, la franc-maçonnerie, elle naît à l'époque où il faut savoir tout ce qui s'est passé avant. Il y a tout un mouvement de la pensée, tout un mouvement intellectuel, tout un mouvement de recherche culturelle qui s'est produit. Il y a la réforme, donc la première rupture avec l'Église, en réalité, avec avec la vérité d'Église, la première tentative des hommes de penser en dehors des schémas préétablis par l'Église, et naturellement ça conduit tout de suite à la catastrophe, c'est évident, et donc ils ont commencé à se réunir entre eux. On voit très bien, ça a dû se passer dans le milieu à la fois aristocratique et marchand, c'est vrai que ça se passe à Londres, et tout de suite, moi je suis certain que dans les prémices même de la naissance de la franc-maçonnerie, il y a eu des gens qui ont dit, tiens, on devrait se réunir pour parler de choses des autres, et en même temps on fera des affaires. Donc il y a concomitance des deux objectifs, de faire semblant des gens cultivés, des intellectuels, de parler de livres qui paraissaient à l'école, des livres illuminés, et puis en même temps de faire nos petites combines, de faire nos petites affaires, parce que vous êtes propriétaire, vous êtes un gros actionnaire de la Lloyd, déjà, ou vous êtes un gros propriétaire de bateaux qui font de la Compagnie des Indes, etc. Donc on peut s'arranger entre nous. Et puis on crée en même temps, alors ça il faut lire les bouquins de l'homme qui voulut être un roi, Kipling. On voit très très bien quel est le rôle de la maçonnerie dans le contrôle de l'armée coloniale britannique. On voit très bien que vous avez deux ordres dans l'armée coloniale britannique, vous avez l'ordre militaire avec les officiers, tout ça marche très bien. Mais comme c'est une armée extraordinairement disciplinée, avec une discipline d'une violence énorme, où on fouette les hommes, on les punit en les fouettant avec les baïonnettes, enfin, c'est quelque chose de terrible, il faut absolument introduire un élément modérateur là-dedans. Et donc on crée des loges militaires qui vont être éléments modérateurs, où on va avoir des types qui vont être officiers, qui vont fraterniser avec des sous-officiers et des hommes de troupe, dans la loge, les mêmes qui, le soir et dans la journée, ils vont avoir des rapports extraordinairement hiérarchisés et extraordinairement durs dans l'ordre militaire. Mais ça a produit une espèce d'huile dans les rouages. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement maçonnique par les fusions, et c'est comme ça que vous avez cette société, je vous dis, où vous avez des ateliers, par exemple, où le vénérable est inspecteur de police, et où le tuileur, enfin le portier, est commissaire divisionnaire, ou voire directeur général de la police. Et donc il est, pendant le moment où il est dans l'atelier, où il a, comme ils disent, laissé ses métaux à la porte du temple, et ben, toutes les hiérarchies sont inversées. On est dans un système d'inversion. Il faut bien comprendre ça. On est dans un système d'inversion où tout ce qui est mal est bien, tout ce qui est bien est mal, tout ce qui est permis est interdit, tout ce qui est interdit est permis. Et donc inversion des hiérarchies aussi.
Oui, j'ai deux questions. La première, quelle est la vraie hiérarchie justement dans les loges maçonniques en termes d'influence, de pouvoir? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous savez vraiment, en dehors de vous dire, mais par des bonnes sources, si la Commission européenne, à Bruxelles, exige un certain grade
Non, ça je ne le sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est que les gens qui ont organisé, qui sont à la tête du débat de l'organisation de la Commission européenne s'appellent M. Cantor et l'autre M. Britten. Voilà. Donc, on ne retourne ni l'un. Donc, voilà, ça, on en est certain. Je ne sais pas si ça me semble, mais je sais que c'est M. Cantor et M. Britten. Pour moi, c'est une explication très largement suffisante. Sur les hiérarchies, alors, en réalité, les hiérarchies, les vraies hiérarchies de la franc-maçonnerie sont complètement occultes et même les francs-maçons ne les connaissent pas. Parce que les hiérarchies des loges dans les ateliers ne sont le reflet d'aucune réalité de pouvoir. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un vénérable qui est un crétin avéré et puis un officier qui est un type brillant. Un officier qui a du pouvoir et un vénérable qui n'en a pas. D'ailleurs, en général, quand le vénérable a fini son vénéralat, il redescend et il devient portier, c'est-à-dire qu'il passe du sommet de la loge au grade le plus bas des officiers, c'est celui qui reçoit la porte, qui tuile et qui s'assure que la loge est dûment couverte, donc c'est un vrai portier. Voilà. Et ça, c'est pour bien montrer que les hiérarchies sont essentiellement variables, sujettes à modification, que rien n'est définitif, etc. Mais tout ça, c'est du domaine de la symbolique. Dans la réalité, il y a évidemment des gens extraordinairement puissants qui dirigent réellement les ateliers, Et ça, on ne les connaît pas parce que le grand maître de la Grande Loge de France n'est évidemment pas le patron. Quand c'était Richard Dupuis, il avait une certaine importance, mais il n'était pas du tout le patron, c'était tout à fait clair. Et il y a des gens qui, en apparence, ont des rôles subalternes et qui, en réalité, ont des pouvoirs et des fonctions très importantes. Ça, c'est... Il faut vraiment vivre dedans pour le comprendre, parce que à mesure que vous vivez dans le système, vous voyez quand même se dégager des personnalités, et alors là, il y a des surprises. Par exemple, un des francs-maçons les plus importants en France, qui a un rôle extrêmement puissant, c'est un comédien à peu près totalement inconnu, et qui dans les obédiences est considéré comme un type formidablement important, qui a un pouvoir, une puissance, une autorité incontestée. C'est quelqu'un qui s'appelle pas de personne, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui s'appelle pas de personne, de rien du tout. Il est personne d'ailleurs, curieusement. Et bien voilà, il est considéré par les francs-maçons comme une des grandes autorités d'un certain. Il y a des obédiences avec
oui,
des femmes,
obédiences
sans le droit humain, et puis la grande loge féminine, c'est, je dois le dire, c'est un grotesque achevé. Déjà, les hommes, c'est guignolesque, mais les femmes, c'est pathétique.
Dans les événements actuels, est-ce que vous pensez que les pressions ont été
assorties
de menaces?
Oui, absolument. Ah, ce sont des menaces qui portent, je ne sais pas sur la vie des gens, mais sur leurs intérêts et sur les intérêts de leur famille. Ça, c'est évident.
De toute façon, il a été exclu de la grande loge.
Oui, mais ça, alors, c'est du... il a été. Il sera réintégré la semaine prochaine. Ouais. Plus ça, c'est du.
Et les pressions se font.
Non, les patients, c'est très clair. C'est, on va voir les gens et on leur dit, c'est très simple. Ou tu l'arrêtes, ou tu vas le payer très très cher. C'est-à-dire que ton fils qui est directeur de tel, il va dégager de sa place. Ton petit-fils qui est à tel endroit, il va avoir tel problème. C'est comme ça que ça marche. Hein. Alors là, il faut être, c'est très clair. Le jour où vous les emmerdez vraiment, ils deviennent d'une férocité épouvantable. Alors, à ce niveau-là, au niveau du clan. Enfin, moi, le jour où j'ai dit, écoutez, je m'en vais, j'en ai ras-le-bol de mon histoire, je suis parti, personne ne m'a retenu, puis j'ai jamais eu le moindre problème. Jamais, jamais la moindre difficulté. Enfin, je pense pas que mes difficultés actuelles soient liées à quelque chose que j'ai pas il y a 20 ans.
D'où le discours de plus en plus étrange de l'Église, de plus en plus à jour, le silence, le repentance.
Alors, l'Église Barouin disait que 70% des évêques français appartiennent à la maçonnerie. Voilà. Le dossier qu'on y voit par Barouin personnellement, à notre ami, le père de Robert, puisque le père de Robert était allé déjeuner, dîner chez lui, et le père de Robert racontait, il faudrait qu'il soit là pour vous le raconter, c'était hallucinant. Il a dîné donc chez Barouin, à une table triangulaire. Oui, absolument. On lui a dit, vous allez vous asseoir là. Alors lui, par principe, il a exigé de s'asseoir ailleurs. Et les Barouin étaient copains, ils faisaient une sale gueule. Ils n'étaient pas contents du tout qu'ils ne soient pas au bon endroit. Et lui disait, parce que je savais que là, ils avaient préparé quelque chose pour me faire un mauvais tour et tout. Mais j'étais tranquille parce que j'avais le très saint corps de notre Seigneur sur moi, il était venu avec une hostie dans son portefeuille, en disant, ils m'en rompent pas. Et là, il raconte que les autres étaient un peu gênés, comme ça, ils l'approchaient, mais en faisant un petit tour, ils n'étaient pas très à l'aise d'avoir la sainte hostie à proximité d'eux. Ça, c'est raconté par le père de Robert. Et au cours de ce dîner, Barouin lui a dit, mais mon père, vous perdez votre temps, vous appartenez à une église complètement dépassée, 70% des évêques de France sont francs-maçons. Alors, bon, il faut en prendre un laisser, c'est peut-être pas 70%, c'est peut-être 30%, peut-être 28%, on ne sait pas.
Ou
à Nice. Mais, comment?
Ou à Nice.
Alors, à Nice, c'est clair. Alors là, c'est pratiquement 100%.
Si tu veux, je vais raconter mon expérience avec Monseigneur Lemar.
Oui.
C'est la même, hein.
J'étais à Drancy pour la repentance en tant que journaliste. Et j'ai posé la question à Monseigneur Thomas. Je lui dis, à votre avis, Monseigneur, quelles sont les fautes actuelles de l'Église catholique? il a réfléchi un peu, il m'a dit d'abord le silence sur la Shoah, mais le problème est réglé, il y a un texte en préparation avant. Et ensuite, les relations que nous avons eues avec les autres églises, et là j'ai eu le titre et je lui ai dit, et notamment avec la franc-maçonnerie, et là il a fait, oh monsieur, si vous saviez, me prenant certainement pour un journaliste du Monde, si vous saviez, j'étais le premier à aller les voir, et j'ai été très amitié. J'ai fait une cassette avec eux, etc. Alors j'ai dit, monseigneur, mais pas des textes, des encycliques, d'un musée catholique, je fréquentais les francs-maçons. Là encore, écoutez, monsieur, c'était éminemment temporaire pour des gens donnés, pour une situation donnée, non plus court aujourd'hui.
Mais lui-même franc-maçon,
alors. Bah, évidemment.
Il est probablement ce que les maçons appellent un maçon sans tablier. C'est-à-dire, un maçon sans tablier, c'est quelqu'un à qui on ne demande pas de devenir franc-maçon. Oui. J'ai employé le mot à tort tout à l'heure. En réalité, ce que je voulais définir tout à l'heure, c'était ce qu'ils appelaient la pierre brute. La pierre brute, c'est l'homme qui a toutes les qualités pour devenir maçon et qui va devenir maçon. On va tailler. Le maçon sans tablier, c'est l'homme qui a toutes les qualités pour devenir maçon et à qui on ne va pas demander de devenir maçon, mais qu'on va entreprendre comme un non-maçon qui va servir dans la société non-maçonnique et anti-maçonnique les intérêts de l'obédience. Et ça, Thomas, c'est exactement ça. Je ne pense pas qu'il soit franc-maçon, parce que ce serait un petit peu voyant, et on finirait par le savoir, mais c'est évident qu'il le considère comme un maçon sans tablier. En revanche, Herbulot est très probablement... très probablement... Pardon ?
Herbulot.
La pierre taillée. La pierre brute. Vous avez la pierre brute qui devient pierre taillée. Et puis ensuite qui devient colonne. Et quand il meurt, c'est colonne tronquée.
Et Gaillot alors.
Gaillot. Gaillot, ça m'a ils n'ont pas du tout besoin. Si vous voulez devenir maçon, il appartient à une autre maçonnerie probablement.
Oui, c'est une question naïve. Un jour, je vois dans la presse des cartons et des francs-maçons. Un autre jour, je vois que Soissons est franc-maçon. Je lis dans le Figaro que Aurillac est une ville maçonne, donc ville du Routard aussi. Et alors, cette information est fragmentaire. Alors, je me suis jeté à la, à la bibliothèque excellente d'Aurillac et j'ai demandé, Aurillac est une ville maçonne, pourriez-vous me donner de la documentation sur la maçonnerie à Aurillac? Alors, j'ai eu droit à un article fort intéressant de l'Arcus de la Haute-Auvergne qui décrivait la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, de la même manière que vous. Vous nous parlez d'un livre très intéressant sur la maçonnerie sous la Révolution. Seulement, on pourrait être aussi intéressé par un livre sur la maçonnerie aujourd'hui.
Oui, c'est vrai qu'ils existent. Vous avez Costant a fait des tas de bouquins.
Qu'est-ce que vous nous conseillez donc?
Oui, Costant.
Emmanuel Ratier, c'est indispensable. Voilà, ça, c'est là-bas.
Mais sur la franc-maçonnerie actuelle, vous savez, c'est un petit peu difficile d'écrire un livre parce que ça suppose qu'on soit informé de ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, on pourrait être informé de ce qui se passe à un niveau intéressant, il faut en être, et si on en est, on n'a pas envie d'écrire. Le seul qui a écrit des bouquins sur la franc-maçonnerie, c'est Jean-André Pochet, contemporain. Or, il était grand chancelier de la Grande Loge de France. Il était journaliste à Minute également, d'ailleurs. Il était bien les choses. Et il a publié un bouquin de la maçonnerie dans lequel il donne les noms des maçons contemporains, mais il s'arrête prudemment dans les années 40.
Voilà, c'est ça.
Ah, ou alors, il y a quelques personnes qui sont complètement affichées, qui sont connues, mais la plupart du temps, on évite de donner les noms. La seule période où les noms ont été donnés, c'est en 40-44, quand les documents maçonniques ont publié les listes des ateliers. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, il y a des francs-maçons qui ont fait des procès à Faye, qui était le directeur des documents maçonniques, parce qu'il avait publié leur nom. Et les tribunaux de Vichy ont donné raison aux francs-maçons qui portaient plainte parce que leur nom avait été dévoilé dans la presse. Ça, c'est tout à fait extraordinaire quand même.